voilà, ravi de vous retrouver, hein, Michel. Voilà, pardon, ça a coupé sur mon retour. Donc Michel, bienvenue. Alors 85e chronique astro. Donc tout de suite, si vous voulez, on rappellera bien évidemment le site Constellation Zégalaxie, c'est au pluriel, où sont archivées toutes les chroniques. Mais peut-être si vous voulez bien commencer par votre chronique, et vous allez nous parler de l'actu, puis on va rester justement hein, là. Le mot actualité n'a jamais eu autant de sens, car vous allez revenir également sur les impacts de ce qui se passe en Ukraine, hein, et là le lien avec les impacts dans le domaine spatial.
Oui, bonjour Joël. J'avais abordé le sujet la dernière fois, et si je peux dire à chaud, car l'invasion russe de l'Ukraine n'avait commencé que quelques jours auparavant, et il y avait à la fois des effets tangibles, comme l'arrêt des lancements de Soyouz depuis la base française et européenne de Kourou en Guyane, et d'autres points qui restaient incertains, notamment en ce qui concerne les missions spatiales en coopération avec la Russie. Un mois après, on y voit un peu plus clair, car des décisions sont intervenues dans l'intervalle. Je commencerai par une bonne nouvelle, car elles sont plutôt rares dans le contexte géopolitique actuel. Il y a tout juste une semaine, mercredi 30 mars, l'astronaute américain Mark Vandy Hale est redescendu de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, à bord d'un Soyouz russe, comme prévu, et avec ses deux collègues russes, ils ont atterri sans encombre au Kazakhstan. Je rappelle que si la Russie lui avait refusé l'accès au Soyouz, une solution aurait pu être trouvée avec une capsule américaine. Quelques jours auparavant, leur relève par trois cosmonautes russes a valu quelques interrogations dans les médias, car ils portaient en entrant dans l'ISS des combinaisons jaunes et bleues, dont on se demandait si elles n'étaient pas une allusion au drapeau ukrainien et donc une forme de soutien à ce pays martyrisé. Mais ça semble peu probable quand on pense aux conséquences que cela pourrait avoir sur leur carrière. De plus, d'anciens astronautes français ayant séjourné à bord de l'ISS ont été interrogés à ce sujet et ils confirment que cette hypothèse est assez invraisemblable, car ces tenues faites sur mesure pour chaque cosmonaute des mois plus tôt ont été chargées dans le vaisseau Soyouz des semaines avant le début de la guerre en Ukraine et il est très difficile de modifier les conteneurs de la capsule au dernier moment pour des raisons d'équilibrage de la charge. Donc, même si on peut se demander pourquoi ils n'ont pas opté pour d'autres tenues plus neutres, hein, car chaque astronaute est doté de toute une garde-robe pour un séjour de 6 mois pendant lequel aucun lavage n'est possible à bord, l'hypothèse la plus plausible est que ces tenues étaient en réalité un hommage à l'université de Bauman à Moscou, dont les couleurs sont le jaune et le bleu et où tous trois ont été formés et qui est à peu près l'équivalent du MIT américain ou de l'école polytechnique en France. D'ailleurs, c'est de cette université que sortait également Sergueï Korolev, le fondateur du programme spatial russe après la Deuxième Guerre mondiale. Pour couper court aux rumeurs à ce sujet, le commandant du Soyouz, Oleg Artemiev, a déclaré le lendemain de leur arrivée à bord de l'ISS, hein, je le cite, « Ne cherchez pas de signes ou de symboles secrets dans nos uniformes, la couleur n'est qu'une couleur, elle n'a rien à voir avec l'Ukraine. Même depuis l'espace, nous sommes ensemble avec notre président et notre peuple. » Et pendant que nous parlons de l'ISS, j'avais relayé la dernière fois les propos de Dmitri Rogozin, directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos, qui menaçait de ne plus utiliser les moteurs des ravitailleurs Progress pour maintenir l'ISS en altitude et risquer sa désorbitation en raison de son frottement dans l'air raréfié de la très haute atmosphère où elle circule. Depuis, de nombreux experts ont qualifié de provocation gratuite ces déclarations de ce proche de Poutine, auquel il s'est rallié après avoir débuté sa carrière politique de député dans l'opposition de droite, presque à la marge d'un parti néo-nazi. Il semble familier de ces provocations verbales, agressives et fantaisistes, on pourrait dire un peu à la Trump, comme par exemple, juste après l'invasion russe de la Crimée en 2014, je le cite à nouveau, « Les États-Unis devraient renvoyer les astronomes dans l'ISS avec un trampoline, pour bien souligner la dépendance des Américains au Soyouz, avant que SpaceX ne puisse rétablir des liaisons américaines avec la capsule Crew Dragon en 2020, occasion pour Elon Musk de lui répondre en déclarant avec humour, je le cite, « Le trampoline a marché ». Pour en revenir à la réalité technique du problème du maintien de l'ISS en orbite, je rappelle à nos auditeurs qu'elle était à 420 km d'altitude fin février, donc pratiquement à son maximum, et que pour descendre à son niveau minimum d'environ 370 km, il lui faudra de nombreux mois, voire des années, au rythme moyen de 2 km perdus par mois. Et pour conclure sur l'aspect mesquin de certaines mesures de rétorsion de Roscosmos, je signale qu'avant le lancement d'un Soyouz pour mettre en orbite des satellites de communication OneWeb, début mars, elle a diffusé une vidéo montrant des techniciens du cosmodrome de Baïkonour en train de recouvrir méticuleusement d'adhésifs blancs tous les drapeaux des partenaires étrangers décorant la coiffe de la fusée pour cette mission internationale, c'est-à-dire ceux des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon et de la France.
Alors Michel, quels sont les autres impacts pour les missions spatiales du gel des coopérations avec la Russie donc ?
L'arrêt des lancements de Soyouz en coopération avec Arianespace, que ce soit depuis la base de Kourou en Guyane ou de Baïkonour, pose un problème pour de nombreux satellites qui devaient être mis en orbite ces prochains mois. Notamment ceux destinés à améliorer la précision du système Galileo, la version européenne du GPS, et ceux de Copernicus, des satellites européens d'observation de la Terre, notamment dans le domaine de l'environnement et donc du changement climatique. Le même problème se pose pour le satellite militaire français d'observation, CSO-3, qui devait être lancé par un Soyouz en fin d'année. Le ministère des Armées a annoncé qu'il partirait en 2023 sur Ariane 6. Mais le report de lancement sur ce nouveau lanceur Ariane pose deux problèmes. D'une part, il n'a jamais volé et son premier tir n'est prévu qu'en fin d'année. Et comme il faut deux tirs de qualification réussis avant que les satellites envoyés puissent être assurés, ça ne sera donc certainement pas avant 2023, même si tout se passe au mieux. D'autre part, si de nombreux lancements prévus sur Soyouz se reportent sur Ariane 6, cela provoquera un certain embouteillage, si je peux dire, dans son planning et donc une forte incertitude sur les dates d'envoi de chaque mission. La situation est bien plus critique encore pour la mission ExoMars 2022 de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, car non seulement elle devait être lancée fin septembre à bord d'une fusée russe Proton depuis la base de Baïkonour, mais la coopération avec Roscosmos était bien plus profonde, car c'est l'agence russe qui a développé la plateforme d'atterrissage, baptisée Kazachok, qui doit déposer en douceur à la surface de Mars le rover européen, baptisé Rosalind Franklin, pour rendre hommage à la biologiste britannique découvreuse de la structure hélicoïdale de l'ADN. C'est une mission cruciale car pour la première fois, ce rover martien sera capable de forer le sol jusqu'à une profondeur de 2 mètres afin de recueillir des échantillons frais, si je peux dire, où on aurait plus de chances de découvrir des traces de vie qu'à la surface soumise à un intense rayonnement solaire ultraviolet et des molécules très oxydantes de l'atmosphère martienne. Deux causes provoquant une forme de stérilisation de la surface, comme le rappelle Oleg Korablev, directeur du département de physique des planètes à l'Académie des sciences de Russie et responsable d'un instrument russe embarqué sur le rover. Il déplore le report d'ExoMars 2022, car l'ESA a annoncé mi-mars qu'elle suspendait cette mission jusqu'en novembre 2024. Je rappelle qu'une fenêtre de tir favorable se présente seulement tous les 2 ans, quand Mars et la Terre sont les plus proches. Et 2024 est l'hypothèse la plus favorable, en comptant sur la reprise d'une coopération avec la Russie. Car dans le cas où tout le système d'atterrissage russe doit être remplacé et le lancement assuré par une Ariane 6, il ne pourra avoir lieu qu'en 2026, voire même début 2029. On pourrait dire que c'est la poursuite de la poisse pour cette mission, initialement prévue en 2018, reportée à 2020 après l'échec de l'atterrisseur européen Schiaparelli en 2016, puis 2022 pour des problèmes de parachute de freinage. Actuellement, le rover est encore en Italie, sur le site turinois de Thales Alenia Space, où on procède à des tests avec la plateforme Kazachok, et ils devaient être tous deux acheminés en Russie fin mars par des avions cargo russes de la compagnie Volga Dnipr, qui a suspendu ses activités en Europe. Avec moins d'urgence, puisque son lancement n'était prévu qu'en avril 2023 par une fusée Soyouz, le même problème va se poser pour le très important télescope spatial européen Euclide, dont la mission sera de cartographier avec une grande précision les galaxies dans l'univers, ce qui devrait permettre de résoudre un certain nombre de questions cosmologiques que pose le modèle du Big Bang. Un report sur Ariane 6 est envisagé, avec tous les problèmes de planning que j'évoquais, mais pas uniquement. Il faut savoir que pour résister aux intenses vibrations lors du décollage, un satellite est fixé à un système d'amortisseurs. Mais celui-ci est spécifique pour chaque fusée, car elles ont chacune des modes de vibration différents. Celui conçu pour le Soyouz ne conviendra donc pas pour Ariane 6. Heureusement, les ingénieurs ne repartent pas à zéro, car suite au retard dans la construction d'Euclide, qui devait initialement être lancé en 2020, l'hypothèse d'un lancement sur Ariane 6 avait été envisagée et la conception de l'adaptateur mécanique correspondant avait commencé. Et pour finir, un aspect inverse, avec un effet que le domaine spatial peut avoir sur la guerre en Ukraine. On a pu apprendre par des reportages sur place que les troupes ukrainiennes utilisant des drones de combat pour guider les tirs d'artillerie de nuit sur des postes de commandement ou des tanks russes passaient par le réseau Internet rapide des satellites Starlink de SpaceX pour communiquer les données. Elon Musk a en effet répondu aux demandes du gouvernement ukrainien en livrant des centaines, certains disent même des milliers, de terminaux permettant de se connecter à son réseau spatial. Cela démontre bien que les conflits modernes ont aussi leur volet spatial, comme le prouve bien la création en 2019 de l'US Space Force par Donald Trump et la même année en France d'un commandement militaire de l'espace par le président Macron.
Et pour passer à des actualités plus réjouissantes, on dira ça comme cela, toujours de bonnes nouvelles du JWST.
Voilà, en effet, nous suivons toujours le feuilleton, si je peux dire, de la mise en service du JWST ou James Webb Space Telescope, le nouveau télescope spatial de la NASA, qui se déroule sur plusieurs mois, depuis son lancement le 25 décembre, son déploiement pendant son trajet jusqu'à sa destination à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, puis maintenant toute la phase de réglage de son optique et de calibration de ses instruments. La dernière fois, j'avais parlé des premières images publiées par la NASA lors du réglage des 18 segments hexagonaux de son miroir primaire en visant une petite étoile de la Grande Ourse servant de cible pour régler leur alignement correct afin de constituer l'équivalent d'un seul miroir de 6,50 m avec une précision extrême. Ces images publiées en février étaient assez déroutantes car montrant 18 images de l'étoile réparties sur le capteur, configuration utilisée pour affiner le réglage individuel de chaque segment. Comme prévu, l'étape suivante consistait à faire converger les 18 faisceaux de lumière pour obtenir une seule image plus lumineuse et nette. C'est ce qu'on voit sur la photo publiée par la NASA le 16 mars, réalisée sur une autre étoile choisie dans la constellation voisine du Dragon, avec la caméra NIRCam, en anglais ça veut dire Near Infrared Camera, ou caméra dans l'infrarouge proche en français, donc dans le domaine de l'infrarouge, invisible à nos yeux, et pour le rappeler, l'image en noir et blanc a été colorisée artificiellement dans des nuances rouge-orangées. On est bien loin des spectaculaires images de nébuleuses ou galaxies produites depuis 30 ans par le télescope Hubble, mais si on ne regarde de plus près, le fond de ciel est constellé de petites galaxies lointaines qui révèlent des fins détails, nous rassurant sur la qualité optique du télescope. Je rappelle à nos auditeurs que les astronomes avaient été dépités lors de la mise en service de Hubble en 1990, en constatant qu'il produisait des images floues en raison d'une erreur dans le façonnage de son miroir primaire. Aucun souci de ce genre avec le JWST, et comme le planning des tests semble avancer comme prévu, on attend les premières observations scientifiques pour juin.
Et enfin, la découverte de l'étoile la plus lointaine jamais photographiée dans l'univers.
En effet, les médias ont relayé cette information la semaine dernière, suite à la publication de cette découverte dans la prestigieuse revue Nature le 30 mars dernier. C'est l'équipe de l'astronome américain Brian Welch qui a annoncé cette trouvaille inattendue, et qu'il a baptisé Herendel, soit l'étoile du matin en vieil anglais. Mais cet exploit ne doit rien du tout au nouveau JWST qui n'est pas encore en service, puisque c'est en exploitant des images du bon vieil Hubble pour y déceler des très lointaines, donc très vieilles galaxies, que ces chercheurs sont tombés de manière inattendue sur cette étoile, dont la distance est estimée à 12,9 milliards d'années-lumière, soit environ 900 millions d'années après le Big Bang, pulvérisant le record précédent de l'étoile baptisée Icarus, découverte en 2018, plus récente de 3,7 milliards d'années. Car je rappelle qu'en raison de la vitesse finie de la lumière, bien que très grande, environ 300 000 km par seconde, plus on observe loin dans l'univers avec nos télescopes, plus on observe des objets loin dans le passé, leur image correspondant à leur état au moment où la lumière en est partie, avant de nous parvenir très très longtemps plus tard. D'ailleurs, ces étoiles n'existent plus aujourd'hui. Comme elle faisait partie des toutes premières générations d'étoiles après le Big Bang, sans doute la deuxième ou peut-être même la première, car les éléments produits par la destruction d'une étoile peuvent servir à en constituer d'autres ensuite, il s'agit de très grosses étoiles, les seules possibles selon nos modèles avec des éléments légers fabriqués au début du Big Bang, l'hydrogène et l'hélium si c'est la première génération, avec quelques traces d'éléments plus lourds comme le carbone et l'oxygène si c'était la deuxième génération. Selon l'équipe de Brian Welch, Herendel aura une masse d'environ 50 fois celle du Soleil. Et comme je l'ai déjà expliqué ici, notamment lors de la chronique de janvier dont le thème était la mort des étoiles, plus une étoile est massive, plus sa durée de vie est courte, car les énormes pressions et températures qui règnent en son cœur provoquent des réactions de fusion nucléaire plus intenses, consommant plus vite leur carburant, si je peux dire, l'hydrogène de leur noyau. Elles ne durent donc que quelques centaines de millions d'années et pas des milliards comme notre petit Soleil. Bien entendu, Herendel sera une cible de choix pour le JWST, qui avec son miroir plus grand et ses instruments spécialisés dans l'infrarouge, permettra peut-être de vérifier qu'elle pourrait être de la toute première génération d'étoiles, qui se sera allumée environ 100 millions d'années après le Big Bang, ou la deuxième environ 800 millions d'années plus tard. La meilleure connaissance de ces étoiles très anciennes et des galaxies primitives apparues sans doute en même temps est l'un des principaux objectifs du JWST, afin de nous permettre d'affiner notre modèle du Big Bang en connaissant mieux l'état de l'univers dans sa jeunesse, si je peux dire.
Mais comment peut-on observer des étoiles aussi lointaines avec nos télescopes, Michel ?
Alors, c'est une très bonne question. Et la réponse est très simple, on ne devrait pas le pouvoir. Et si on y parvient, c'est grâce à un petit miracle. Si on se représente une étoile qui émet de la lumière dans toutes les directions autour d'elle, il est facile de comprendre que plus on est loin d'elle, plus la lumière qui nous arrive est faible. Ce qu'on peut facilement constater en remarquant dans une rue éclairée par une série de lampadaires qu'ils paraissent de moins en moins brillants lorsqu'ils sont plus loin de nous. En effet, l'énergie lumineuse émise par l'étoile se répartit sur une sphère de plus en plus grande quand elle s'éloigne. Et comme la surface d'une sphère se calcule comme le carré de son rayon, un 4πr2, si on se rappelle de nos formules de jeunesse, pour être précis, la puissance lumineuse décroît comme le carré de la distance. C'est-à-dire que l'on reçoit 4 fois moins de lumière quand on est 2 fois plus loin, 100 fois moins quand on est 10 fois plus loin, 1 million de fois moins quand on est 1000 fois plus loin, etc. Pour des étoiles situées à des milliards d'années-lumière de nous, même si elles étaient très lumineuses, hein, on pense que Herendel brille à peu près 1 million de fois plus que le Soleil, le peu de lumière que l'on reçoit dans le pauvre miroir de Hubble, de seulement 2,40 m de diamètre, est totalement insuffisante pour être détectée par ces caméras. Il faudrait un télescope des centaines, voire des milliers de fois plus gros pour y parvenir. Et c'est là qu'intervient le petit miracle qu'on appelle une lentille gravitationnelle, que je vais vous expliquer juste après. Si au lieu de nous arriver directement, la lumière d'un objet lointain traverse une zone comprenant une énorme masse de matière, par exemple un amas de galaxies, cette masse dévie cette lumière et peut la faire reconverger, comme le ferait une lentille optique en verre, donc augmenter son intensité, nous la rendre détectable avec nos télescopes. C'est ainsi que Brian Welch estime que l'éclat d'Herendel a été multiplié environ 1000 fois sur les images de Hubble, car sa lumière passait par un amas de galaxies situé entre elle et nous. Ces lentilles gravitationnelles produisent des images aberrantes, on pourrait dire des sortes de mirages, ayant la forme d'arcs autour des amas de galaxies et qui correspondent en fait à l'image déformée d'une galaxie située loin derrière. Le sujet d'étude de son équipe consistait justement à rechercher de tels arcs dans les photos de Hubble et les étudier pour en savoir plus sur ces galaxies très lointaines. Et c'est en examinant un de ces clichés qu'ils ont eu la surprise de découvrir un petit point rouge très faible dont la forme très ponctuelle a suggéré qu'il s'agissait en fait de l'image d'une étoile isolée, la plus lointaine jamais détectée à ce jour. Au risque de créer une petite déception, il faut quand même signaler qu'il est possible, même si c'est très improbable, que Herendel ne soit pas aussi lointaine, mais soit à l'inverse une étoile proche très peu brillante, ce qu'on appelle une naine brune, et qui serait par hasard pile superposée à l'arc gravitationnel. C'est son observation par le JWST qui permettra de trancher définitivement la question.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio, c'est notre journal en ce mercredi 6 avril, toujours avec Michel Favret. Et là, Michel, vous allez aborder le thème du mois et revenir justement sur les lentilles gravitationnelles.
Oui, alors c'est en raison de cette découverte d'Herendel que j'ai pensé qu'il serait bon d'expliquer un peu plus ce phénomène de lentilles gravitationnelles que j'avais probablement déjà évoqué en novembre 2015 à l'occasion du centenaire de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Comme l'expression lentille gravitationnelle permet de le supposer, il est question de gravité. La force qui gouverne à grande échelle les mouvements des objets célestes, planètes, étoiles ou galaxies. On doit sa première théorie, dite de la gravitation ou attraction universelle, à l'anglais Sir Isaac Newton, qui la publie dans son ouvrage « Principes mathématiques de la philosophie naturelle », publié en 1687, où il définit assez simplement cette loi d'attraction des corps. Deux corps s'attirent mutuellement en raison, aujourd'hui on dirait en proportion, de leur masse et en raison inverse du carré de la distance qui les sépare. Ce serait en réfléchissant au comportement d'une pomme qui tombe de l'arbre, la célèbre pomme de Newton qui lui serait tombée dessus pendant une petite sieste sous un pommier, et de la Lune qui orbite autour de la Terre sans tomber dessus, qu'il aurait élaboré cette règle mathématique assez simple qui permet de recalculer les mouvements des planètes tels que décrits géométriquement par les lois de Kepler presque 80 ans plus tôt. Mais on sait que Newton était gêné par le côté magique de cette force de gravité qui apparaît spontanément et instantanément entre deux masses, et sa théorie ne le satisfaisait pas complètement du point de vue philosophique, car ne permettait pas une explication totalement rationnelle. C'est Albert Einstein, plus de 2 siècles après, qui va proposer une nouvelle théorie de la gravitation, faisant disparaître cette notion de force un peu magique. Après avoir travaillé uniquement sur la propagation de la lumière dans ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la relativité restreinte, publiée en 1905, il a voulu compléter sa théorie en y incorporant la gravité, aboutissant à la théorie de la relativité générale publiée en 1915. Et le modèle de gravité proposé par Einstein est totalement nouveau, car il fait intervenir la notion d'espace-temps de la relativité restreinte et la possibilité que ce cadre soit courbé par la présence des Mars. En fait, c'est un modèle mathématique assez complexe puisqu'il fait intervenir un espace à quatre dimensions. Trois d'espace plus le temps. Et il est très difficile à représenter pour notre cerveau qui évolue dans un monde à trois dimensions. C'est pour cela qu'on le simplifie en se limitant à seulement deux dimensions d'espace pour l'illustrer. Dans l'espace droit, si je peux dire, dans lequel se situe la gravité de Newton, le Soleil et une planète peuvent être représentés comme deux boules posées sur une table rigide, un billard par exemple. Si on lance la boule représentant la planète, elle roule tout droit et n'a aucune raison de se mettre à tourner, orbiter autour de l'autre quand elle passe à proximité. Pour l'expliquer, il faut faire intervenir la force magique de l'attraction universelle de Newton qui fait que les deux boules s'attirent mutuellement, ce qui fait dévier la boule qui roule. Avec la théorie de la relativité d'Einstein, c'est très différent, car l'espace-temps n'est pas rigide mais peut se déformer. Au lieu d'une table de billard ordinaire, il faudrait imaginer que le velours n'est pas posé sur un socle rigide, mais simplement tendu. Quand on pose une boule dessus, elle s'enfonce en créant une dépression, une sorte d'entonnoir. Et si on fait rouler la deuxième boule, elle va automatiquement être déviée par cette dépression au lieu d'aller tout droit, comme sur une table rigide. On observe donc bien la déviation comme une planète orbitant autour du Soleil, sans faire intervenir aucune force magique, juste cette déformation de l'espace-temps par la présence d'une masse. Mais comme je l'ai dit, ceci n'est qu'une image simplifiée, car le véritable espace-temps comporte trois dimensions d'espace et pas deux comme pour la table.
Mais quel est le rapport alors entre cette gravité qui agit sur les planètes et la lumière ?
C'est justement ça qui est révolutionnaire dans le modèle d'Einstein. Comme la gravité ne se présente plus comme une force agissant sur les masses, mais comme une déformation de l'espace-temps, elle a aussi une influence sur la lumière qui n'a pourtant aucune masse. Au lieu de se propager en ligne droite, elle va être déviée en passant près d'une masse, en suivant les lignes courbées de l'espace qu'on appelle des géodésiques. Bien évidemment, cet effet n'est réellement observable qu'au voisinage d'une très grosse masse. Vous, Joël, ou moi, ou même un bâtiment ou une montagne n'ont pratiquement aucun effet mesurable. Mais le Soleil, par exemple, est capable de dévier de manière significative la lumière qui passe à proximité de lui. Et c'est comme ça qu'on obtiendra la première preuve observationnelle de la justesse de la théorie d'Einstein avec l'astronome anglais Arthur Eddington, qui a profité de l'éclipse totale du 29 mai 1919 pour photographier des étoiles visibles à proximité du Soleil et démontrer que leur position semblait avoir été modifiée par rapport aux photos habituelles de la même portion de ciel, ce qui s'expliquait par la déviation de leur lumière à proximité du Soleil au lieu de nous parvenir directement en ligne droite. L'effet général est qu'on a l'impression que les étoiles sont légèrement écartées du Soleil par rapport à leur position réelle. Avec une masse bien plus grande que celle du Soleil, on parle de galaxies ou mieux d'amas de galaxies, la déviation peut être tellement forte qu'un objet situé très loin derrière lui par rapport à nous, par exemple une autre galaxie, voit ses rayons lumineux courbés tout autour de l'amas, ce qui produira l'image d'un cercle. Cet effet appelé lentille gravitationnelle a été prédit en 1937 par l'astronome suisse Fritz Zwicky en s'appuyant sur les équations de la relativité générale. Le terme de lentille est utilisé par analogie avec les déformations d'image que provoque une lentille en verre. Nos auditeurs peuvent s'en faire une idée en observant par exemple les déformations du quadrillage d'une feuille ou d'une nappe quand on interpose une lentille devant ou à défaut le fond ou le pied d'un verre. En astronomie, on n'observe généralement pas de cercle, car l'alignement Terre-amas-objet n'est pas parfait et la répartition des masses dans l'amas n'est pas homogène. Donc on voit plutôt des arcs reproduisant plusieurs fois une image déformée de l'objet lointain tout autour de l'amas. C'est le 29 mars 1979 qu'on a observé la première lentille gravitationnelle à l'observatoire de Kitt Peak, en Arizona, quand l'équipe de l'astronome britannique Dennis Walsh a constaté le dédoublement de l'image d'un quasar, puisque les deux objets avaient très exactement le même spectre. On a découvert depuis que ce dédoublement venait d'un effet de lentille gravitationnelle dû à une galaxie géante située quatre fois plus près de la Terre que le lointain quasar. Le premier cas d'arc gravitationnel est publié en 1986 par une équipe de l'université de Stanford, mais son observation avait été faite dans le cadre de l'étude d'un amas de galaxies remontant à la fin des années 1970. En 1988, le radiotélescope VLA, Very Large Array, au Nouveau-Mexique, dont on voit d'ailleurs les antennes dans le film Contact de 1997 avec Jodie Foster, détecte un effet de lentille gravitationnelle en forme d'anneau complet, surnommé depuis l'anneau d'Einstein. Et en 1995, c'est le télescope spatial Hubble qui révèle un exemple très impressionnant produit par l'amas de galaxies Abel 2218, avec des images multiples de toute une population de galaxies lointaines, en donnant naissance à 120 arcs lumineux. Et avec Hubble et la construction de grands télescopes, les observations de tels arcs se sont multipliées, donnant naissance à un champ d'étude des objets très lointains, comme celle de l'équipe de Brian Welch qui a découvert l'étoile Herendel en étudiant les arcs produits par une galaxie très lointaine.
Et on utilise donc cet effet pour certaines recherches ?
Oui, et dans différents domaines. Par exemple, l'étude des arcs produits par un amas de galaxies, mais ça pourrait aussi s'appliquer à une seule galaxie ou un amas d'étoiles, permet d'étudier la répartition des masses dans cet amas et donc de mettre en évidence la présence d'une masse invisible, contrairement aux brillantes galaxies, la fameuse matière noire dont on cherche toujours à déterminer la nature et la distribution dans l'univers. Comme je l'expliquais à propos d'Herendel, l'effet de l'antigravitationnel produit une amplification de la lumière provenant d'un objet très lointain, ce qui nous permet de les observer alors que nos télescopes ne devraient pas être assez puissants pour le faire. On peut se représenter cette amplification très simplement en pensant à la petite expérience consistant à focaliser la lumière du soleil avec une lentille en verre pour obtenir un point très chaud au foyer permettant d'enflammer un papier ou une feuille morte. Du coup, des objets beaucoup plus lointains, donc anciens, nous sont accessibles et permettent de lever un peu le voile sur l'état de l'univers dans un très lointain passé. Les astronomes ont aussi pensé à utiliser cet effet d'amplification d'un objet lointain pour détecter des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil. Si on a la chance qu'elles viennent à passer pile entre nous et un objet lointain, par exemple une grosse étoile ou une galaxie, elles provoquent temporairement une augmentation de son éclat par ce qu'on appelle une micro-lentille gravitationnelle. On ajoute le préfixe micro pour indiquer que cela met en œuvre une relativement petite masse comme celle d'une planète. Les astronomes cherchent donc ce genre de sursaut de luminosité dans les images prises régulièrement, par exemple par les surveys du ciel, comme on dit en bon français. C'est en 1993 que l'expérience EROS, sur le site de La Silla au Chili, conçue pour rechercher ces micro-lentilles dans les nuages de Magellan, en a mis en évidence une pour la première fois parmi plus de 3 millions d'étoiles analysées. Dans la base de données des presque 5000 exoplanètes découvertes à ce jour, 176 l'ont été par cette méthode de micro-lentilles. Elle permet de révéler aussi d'autres objets peu massifs et invisibles, comme des petites étoiles, qu'on appelle des naines brunes, ou des petits trous noirs stellaires isolés, dont la présence ne pourrait pas être révélée par leur effet sur leur environnement, comme une étoile orbitant avec lui dans un système binaire où la lumière émise par l'échauffement du gaz tombant sur lui. C'est ainsi qu'un article publié en février dernier dans The Astrophysical Journal par une équipe internationale a annoncé la découverte en juin 2011 par Hubble d'un trou noir stellaire isolé errant dans la Voie lactée à environ 5000 années-lumière de nous. Il a été révélé par son effet de micro-lentille en ayant multiplié par 12 l'éclat d'une étoile devant laquelle il est passé. C'est le fait qu'il n'émette aucune lumière lui-même et la durée du phénomène qui exclut les autres hypothèses, planètes, naines brunes, naines blanches, etc., et amène à conclure qu'il s'agit bien d'un trou noir isolé, le premier détecté de cette façon.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio, la radio des Hautes-Garonnes. On est avec Michel Favré, qui va nous présenter sa chronique astro numéro 85 en ce mercredi 6 avril. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique et nous parler du ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie les auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel, difficile à montrer à la radio, et avoir plus de détails. Maintenant qu'on est passé à l'heure d'été, on ne peut observer le ciel nocturne que bien plus tard qu'en mars, puisqu'en ce moment, le soleil se couche vers 20h30 et la nuit arrive vers 21h30 et même 22h si on attend un ciel bien noir. Suite à l'allongement des jours encore notable en avril, ce sera encore plus tard en fin de mois, avec le coucher vers 21h et la nuit vers 22h15. En ce début de printemps, le ciel se partage en début de nuit presque exactement en deux au sud, avec vers l'ouest les constellations de l'hiver partant se coucher, et vers l'est, celle du printemps montant progressivement. Côté hiver, on reconnaîtra facilement la belle figure d'Orion au sud-ouest, basculant vers l'horizon, entourée des autres constellations dont j'ai parlé ces derniers mois. Côté printemps, la vedette est incontestablement le lion, à la silhouette facile à identifier et à situer juste sous les pattes de la grande ourse. C'est aussi en partant de la grande casserole, en prolongeant l'arc de sa queue, qu'on tombe sur Arcturus, l'étoile brillante et légèrement jaunâtre de la constellation du Bouvier, et en poursuivant plus loin, Spica, l'étoile la plus brillante de la Vierge, figurant son épi, car cette Vierge n'a rien à voir avec la Sainte Vierge des chrétiens, mais représente une déesse des moissons, souvent identifiée comme la Cérès des Grecs. En fin de mois, la situation aura notablement changé, avec les constellations de l'hiver presque disparues, laissant la plus grande partie du ciel à celle du printemps, avec le Lion culminant au sud. Côté planète, on ne peut plus en voir le soir et c'est seulement le matin qu'elles se montrent. Et cela vaudra la peine de se lever tôt certains jours car elles vont assurer le spectacle pendant tout le mois. Hier, Saturne et Mars étaient en conjonction très serrée et elles resteront très proches encore quelques jours. Elles s'élèvent vers 6h moins le quart. D'abord Saturne, légèrement jaunâtre, suivi de Mars, bien reconnaissable à sa teinte orangée. Toutes les deux d'un éclat similaire à celui des étoiles brillantes dessinant les constellations. La très brillante Vénus apparaît ensuite vers 6h, puis enfin Jupiter vers 7h moins 10, mais de plus en plus tôt au fil des jours, 5h30 fin avril. On peut donc observer pendant presque tout le mois, difficilement au début avec le lever tardif de Jupiter, un alignement de 4 des 5 planètes visibles à l'œil nu dans le ciel, qui matérialise le tracé de l'écliptique, la ligne le long de laquelle se déplace le Soleil au fil d'une année et dont les planètes sont toujours proches. Ce serait aussi l'occasion d'observer jour après jour le balai de ces planètes, Mars et Vénus, plus proches de la Terre, se décalant progressivement vers l'est par rapport à Jupiter et Saturne, presque immobiles par rapport aux étoiles car bien plus éloignés de nous. La configuration sera particulièrement harmonieuse le matin du mardi 19, avec une répartition assez régulière des quatre planètes, séparées d'environ 10 degrés les unes des autres. C'est à peu près la largeur d'une main bras tendu. En fin de mois, ces mouvements amèneront Vénus très près de Jupiter, avec une conjonction très serrée le 1er mai. Le matin du dimanche 24, un gros croissant de lune s'invitera pour compléter cet alignement planétaire et il passera les jours suivants près de chacune, environ 5 degrés, c'est-à-dire la largeur de deux doigts bras tendus, sous leur ligne. Le 25 près de Saturne, le 26 près de Mars et le 27 près du duo déjà assez rapproché formé par Vénus et Jupiter. Lors de notre prochaine chronique, en principe le 4 mai, nous parlerons certainement d'un phénomène plus spectaculaire avec l'éclipse de lune du 16 mai qui ne sera malheureusement observable que par les lève-tôt car elle se déroulera entre 5h30 et 6h30 du matin.
Voilà, merci Michel pour cette chronique. Donc on a plusieurs rendez-vous, hein, vous en avez cité sur l'été, on reviendra notamment sur ces belles nuits des étoiles. Alors Michel, on va rappeler hein, que tout ce magnifique travail que vous avez effectué, que vous réalisez, on peut retrouver en archive toutes vos chroniques hein, sur le site. Hein. Ça permet peut-être de revenir en arrière, bien sûr, sur certains moments particuliers. Voilà, donc toujours archivé. Hein.
Voilà, donc comme je l'ai dit, sur le site de Constellations et galaxies. La partie astronomie, il y a les cartes du ciel, le ciel du mois, mais il y a aussi une rubrique, les chroniques audio-radio, dans laquelle il y a toutes les chroniques qu'on peut entendre depuis la première en septembre 2014, ça ne nous rajeunit pas. Et donc, il y a la liste avec un petit peu les sujets abordés, ce qui permet, comme je le dis parfois, de piquer les rubriques qui peuvent être intéressantes et pas de se repayer des lectures pendant des heures et des heures des chroniques que j'ai pu assurer ici.
Voilà, puis si on s'en sert, soit pour dans le cadre de son cursus universitaire ou à titre particulier, c'est bien d'avoir un petit lien néanmoins avec vous, hein, qui est ouais, toujours passionné. On peut piquer, mais dans le bon sens du terme.
Oui, hein. Non, je dis piquer comme, oui, on, mais pique, façon de comme parler. On pique sur un plat, quoi. Ce qu'on préfère.
J'avais bien compris, mais voilà, faut pas hésiter à intervenir, échanger avec vous, pourquoi pas. Hein,
sur le site, il y a une fiche contact, sujets, donc on peut facilement me contacter. Les rubriques, si effectivement ça pouvait être utile à certains, je les aussi sous forme de texte, hein, puisque je les rédige à l'avance, et je pourrais communiquer tout ou partie de certaines rubriques à des personnes qui seraient intéressées.
Voilà, faut pas hésiter, ça sert à ça. Hein, la radio, c'est un beau médium pour l'échange, le partage. Donc voilà, prochaine chronique, donc le 4 mai. Hein, j'ai la date que.
C'est pour ça que j'ai parlé du rapprochement Jupiter-Vénus du 1er mai, parce que probablement la prochaine chronique sera après.
Voilà, mais vous resterez néanmoins toujours dans l'actu. En tout cas, merci Michel hein, pour chaque fois cette belle chronique. Voilà, c'est de la passion, de l'implication. Faut la rédiger, c'est du travail également. Hein, donc, faut saluer également cette partie-là. Allez, merci beaucoup Michel, à très vite.